Les cours du Collège de France, Didier Fassin, chaire questions morales et enjeux politiques dans les sociétés contemporaines.
Bonjour à toutes et à tous. Comme je l'ai dit la semaine dernière, les références pour l'ensemble du cours, et donc y compris pour les deux leçons d'aujourd'hui, se trouvent sur Internet, sur ma page, ou plus exactement sur la page Les formes de la violence qui concernent ce cours. Donc, si vous souhaitez consulter, regarder ces références, c'est là qu'elles sont. Vous savez aussi que les cours sont enregistrés et sont ensuite sur la plateforme YouTube ou sur le site du Collège de France. Et puis j'avais dit aussi la dernière fois qu'il y a un livre qui paraîtra sur ce cours au mois de septembre à la découverte. Voilà, aujourd'hui nous parlerons donc de généalogie de la violence et on ira de la psychanalyse à l'éthologie et puis ensuite dans la philosophie politique. Et dans la deuxième partie, c'est-à-dire dans la sixième leçon, on parlera de la question de l'écriture de la violence. Comment écrire sur la violence ou écrire la violence? Voilà, donc c'est le programme du jour. Je rappelle aux étudiantes et aux étudiants que ceux qui doivent valider auront à la pause une feuille à signer. Voilà. Je crois qu'il faut que nous commencions à l'heure, donc nous avons deux minutes. Ah oui, et j'oubliais de vous signaler que, bien sûr, comme vous l'avez vu sur le programme, la prochaine, les deux séances, donc après les deux leçons, il y aura une intervention pour le séminaire de Fabien Truong, qui est un chercheur avec de multiples compétences puisqu'il est sociologue, réalisateur de films et écrivain de romans. Voilà, donc il viendra tout à l'heure, il est de l'Université Paris 8 et il a écrit des ouvrages tout à fait intéressants sur différents aspects de la vie des quartiers et des jeunesses urbaines, et y compris sur des questions de violence dont il parlera. Voilà. Et donc ce sera le moment où nous réserverons un temps pour la discussion, discussion de son intervention ou bien discussion de mes leçons, bien entendu, comme les fois précédentes. La violence originaire est souvent inscrite, on l'a vu, dans des récits mythiques, dans des textes sacrés, ainsi que dans des œuvres littéraires comme les tragédies antiques et dans des narratifs documentaires tels les chroniques médiévales, avec tous les problèmes que pose leur interprétation, à la fois dans leur rapport aux faits tels qu'ils se sont produits et dans leur signification pour les sociétés concernées, aussi bien dans le passé où ils ont pu donner lieu à des rituels que dans le présent où ils peuvent être instrumentalisés, notamment dans la construction de projets nationalistes. C'est ce que nous avions vu la fois précédente. Après donc avoir analysé cette violence des origines, il faut maintenant en quelque sorte renverser la formule pour s'intéresser aux origines de la violence. Il s'agit donc de passer d'écrits religieux et littéraires, en somme une forme de fiction, quand bien même elle se présente comme vraie, à des travaux scientifiques et intellectuels qui, plutôt que d'énoncer une violence originaire, s'interrogent à partir d'éléments empiriques et théoriques sur la production de la violence chez les êtres humains. Que peut-on savoir de ce qui induit la violence comme phénomène à la fois individuel et collectif? La question est complexe et appelle des réponses très diverses. Veut-on parler de l'agressivité des personnes ou de l'hostilité des foules? De meurtre ou de guerre? De viol ou de lynchage? Peut-il alors y avoir une analyse cohérente et convaincante de réalités aussi éloignées les unes des autres? À ces questions, deux grands types de réponses ont été apportées. Les unes sont à la recherche d'explications à valeur universelle. Elles sont puisées dans l'éthologie, la biologie, la psychologie, la paléontologie et de plus en plus les théories évolutionnistes darwiniennes ou néo-darwiniennes. Il s'agit de comprendre des comportements violents, en général à partir de caractéristiques qui seraient inscrites dans des éléments communs à tous les êtres humains, voire même partagés avec d'autres animaux, tout en évoluant au fil d'une histoire remontant parfois aux origines de l'humanité, c'est-à-dire ce qu'on nomme en anglais « deep history », l'histoire profonde. Les autres théories sont en quête d'interprétations de type social, puisées dans la philosophie politique principalement, mais également dans la sociologie, l'anthropologie, l'histoire. Il s'agit alors d'appréhender à quelles conditions les relations entre les êtres humains favorisent, ou au contraire empêchent, les pratiques violentes entre les individus ou entre les collectivités, en œuvrant aussi bien à la reconstitution imaginaire du passage de l'état sauvage à l'ordre social qu'à l'étude particulière de situations anciennes ou contemporaines. La délimitation entre les deux n'est toutefois pas étanche et des emprunts se font dans les deux sens, entre l'universel et le social. De plus, les unes et les autres recourent à une pensée qu'on peut appeler généalogique, de type nietzschéen, d'un temps très long, plutôt que foucauldien, d'une temporalité plus limitée, en revendiquant même une démarche scientifique dans le cadre des thèses évolutionnistes modernes, ou au contraire, encline à une approche plutôt spéculative pour la philosophie politique classique. Sous-jacente à ces lectures des origines de la violence, aussi diverses soient-elles, comme je viens de l'indiquer, il y a souvent une composante morale commune, à savoir que la violence, c'est le mal, qu'elle doit donc être éliminée, et même que par des phénomènes d'adaptation, comme le pensent les évolutionnistes, ou bien par des logiques de contractualisation, telles que les conçoivent les philosophes, elle aurait, à l'échelle de l'humanité et de son histoire, reculé. Fait remarquable, les deux grandes approches classiques de la version universelle, donc la première dont je vais vous parler, pourtant aussi éloignées conceptuellement qu'on puisse l'imaginer, à savoir la psychanalyse et l'éthologie, ont adopté le même vocabulaire pour parler de ce qui conduit à la violence. Les deux mots qu'ils utilisent le plus souvent sont « instinct » et « pulsion » pour parler pour les uns de l'agressivité des humains et pour les autres de l'agressivité des animaux. Le paradoxe est toutefois bien moins étrange qu'il n'y paraît, car les premiers, c'est-à-dire les psychanalystes, expliquent les conduites humaines en se référant parfois au fond animalier, tandis que les seconds, les éthologues, se servent de la connaissance des comportements des animaux pour les extrapoler aux humains. Du moins, est-ce ainsi que le fondateur de la psychanalyse, Sigmund Freud, et le père de l'éthologie moderne, Konrad Lorenz, voient les choses à trois décennies de distance. C'est dans « Malaise dans la civilisation », publié en allemand en 1930, que Freud développe sa théorie à ce sujet. Le titre original est en réalité « Das Unbehagen in der Kultur ». La distinction à faire ou à ne pas faire entre culture et civilisation a donné lieu en Allemagne à de nombreuses discussions animées à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Le premier mot, Kultur, glorifiant souvent la supériorité de la culture allemande, avec donc une spécificité nationale, tandis que le second, civilisation, évoque plutôt les progrès de l'humanité sur les plans technologiques aussi bien que moral et politique, correspondant de fait à un modèle occidentale. L'ouvrage de Freud a été traduit plusieurs fois en français, certains auteurs conservant le mot « culture », d'autres préférant le mot « civilisation », bien que le psychanalyste autrichien, en fait, utilise presque indifféremment l'un et l'autre de ces deux termes, avec une préférence toutefois pour « Kultur », plus commun en allemand que le second « civilisation ». Quoi qu'il en soit de ce débat, dont on comprend cependant qu'il est plus que simplement linguistique, puisqu'il engage un double rapport à la nation d'une part et au monde d'autre part, donc, malaise dans la civilisation, pour garder le titre français le plus habituel, marque la tentative de déplacement de la pensée analytique conçue par Freud, de l'individu à la société, du psychisme à la culture. Ce déplacement n'est toutefois que partiel, car pour penser la civilisation, le psychanalyste autrichien a besoin de revenir à la relation entre les personnes, comme si la société était la simple somme des individus. Ainsi, il part du commandement chrétien « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », qui est souvent vu comme un trait idéal de la civilisation, mais dont il conteste le caractère réalisable et même souhaitable. En effet, hormis dans la relation amoureuse et plus largement dans les liens familiaux et amicaux, il n'y a aucune raison d'aimer quelqu'un, écrit-il, s'il m'est inconnu, s'il ne m'attire par aucune qualité personnelle, et s'il n'a encore joué aucun rôle dans ma vie affective. Et il poursuit, non seulement cet étranger n'est en général pas digne d'amour, mais pour être sincère, je dois reconnaître qu'il a plus souvent droit à mon hostilité et même à ma haine. Ce qu'il conduit à ce propos général, la part de vérité que dissimule tout cela et qu'on nie volontiers se résume ainsi, l'homme n'est point cet être débonnaire, au cœur assoiffé d'amour, dont on dit qu'il se défend quand on l'attaque, mais un être au contraire qui doit porter au compte de ses données instinctives une bonne somme d'agressivité. Et plus loin encore, l'homme est tenté de satisfaire son besoin d'agression aux dépens de son prochain, d'exploiter son travail sans dédommagement, de l'utiliser sexuellement sans son consentement, de s'approprier ses biens, de l'humilier, de lui infliger des souffrances, de le martyriser et de le tuer. Cette agressivité, donc, si elle peut répondre à une provocation, se manifeste en fait souvent, pour Freud, de manière spontanée, démasquant, je le cite, « sous l'homme la bête sauvage qui perd tout égard pour sa propre espèce ». La doctrine des instincts ou la théorie des pulsions, qui sont les deux expressions qui traduisent le mot allemand « Triebe-Lehre », permet d'éclairer le combat entre Eros et Thanatos dans le monde. Je cite encore, « La signification de l'évolution de la civilisation cesse d'être obscure dès lors que l'on comprend que cette lutte entre pulsion de vie et pulsion de mort, telle qu'elle se déroule dans l'espèce humaine. » Cette thèse, ironise-t-il, n'est cependant pas acceptée par ceux qui préfèrent les contes de fées et font la sourde oreille quand on leur parle de la tendance native de l'homme à la méchanceté, à l'agression, à la destruction, et donc aussi à la cruauté. Or, ce malaise dans la civilisation dont il parle tient à ce que, pour s'opposer aux inclinations agressives et destructrices de l'instinct de mort, les êtres humains doivent faire des sacrifices en renonçant au plaisir qu'ils auraient à se laisser aller sur cette pente. Il y a donc un coût à ces sacrifices. Tandis, je le cite, que l'homme primitif ne connaissait aucune restriction à ses instincts. Au contraire, l'homme civilisé a fait l'échange d'une part de bonheur possible contre une part de sécurité. Ainsi donc, pour le psychanalyste autrichien, la société s'interprète à partir de l'individu et la violence dans le monde à travers le psychisme. Tout est affaire d'économie libidinale, d'instinct ou de pulsion. Au fond, ce qu'il nomme la nature humaine se trouve dans ce, au fond de ce qu'il nomme la nature humaine se trouve cet état animal, je le cite, que les êtres humains ont hérité de leurs ancêtres. Mais en fait, il y a plus qu'un héritage, un legs, dans la manière dont Lorenz conçoit, lui, la relation entre l'animal et l'humain dans son livre « L'agression une histoire naturelle du mal, dont la version allemande est parue en 1963. On notera à nouveau une différence dans le titre entre la traduction française et l'original allemand. En effet, « Das ungenannte Böse zur Naturgeschichte der Aggression » signifie littéralement « le soi-disant mal pour une histoire naturelle de l'agression ». Par conséquent, cette histoire naturelle n'est pas celle du mal, mais celle de l'agression. Alors même, et la distance prise par l'auteur à travers le mot « soi-disant » disparaît en français au profit d'une essentialisation du mal, puisque l'agression est une histoire naturelle du mal, alors même que l'ouvrage de Konrad Lorenz vise à montrer que l'agressivité n'est pas un mal en soi. Il faut à ce propos ajouter qu'en allemand, comme du reste en anglais, le mot « aggression » renvoie aussi bien à un acte, le fait d'agresser quelqu'un, qu'à une propension, une tendance agressive. Ce qu'en français on distingue par agression et agressivité. C'est à ce second sens que s'intéresse l'éthologue autrichien. Mon livre traite de l'agressivité, et précise-t-il, c'est-à-dire de l'instinct de combat de l'animal et de l'homme dirigé contre son propre congénère. Alors cette dernière indication est essentielle car la question centrale concerne l'agressivité telle qu'elle se manifeste au sein d'une même espèce. Ce qui semble s'opposer en effet au principe darwinien selon lequel les animaux mettent en œuvre des comportements et des adaptations censés favoriser justement la conservation de leur espèce. En effet, ces comportements et ces adaptations, on les observe logiquement dans les combats entre les animaux de différentes espèces, et plus particulièrement dans les cas de prédation pour lesquels la pression sélective s'exerce sur les deux protagonistes à la fois. Ainsi, explique Lorenz, les grands félins développent une capacité de saut et une puissance de leurs pattes pour renverser leur proie, tandis que les antilopes bénéficient de sens plus affinés et de membres plus rapides pour échapper à leurs prédateurs, les uns et les autres assurant ainsi dans le long terme une certaine stabilité de leur espèce. Mais à l'inverse, poursuit-il, on comprend mal a priori en quoi l'agressivité au sein d'une même espèce peut s'avérer positive. En fait, selon lui, plusieurs logiques distinctes sont à l'œuvre. D'abord, les rivalités entre congénères amènent à une meilleure occupation des espaces vitaux disponibles. Et du reste, une fois les frontières établies entre leurs territoires respectifs, les combats cessent. Ensuite, les affrontements entre rivaux, le plus souvent mâles, permettent d'opérer une sélection des plus robustes et des plus résistants, dont la domination sexuelle va favoriser une progéniture plus forte, sans qu'en général les vaincus ne soient mis à mort, étant même protégés par le reste du groupe lors d'attaques ultérieures. Enfin, l'agressivité, spécialement chez les femelles, peut être mise au service de la défense de leurs petits face à des menaces diverses. Ces trois logiques montrent que loin d'avoir un effet négatif sur la conservation de l'espèce, l'agressivité peut au contraire, dans une perspective évolutionniste bien sûr, la faciliter. Mais il ne s'agit pas pour Konrad Lorenz d'en faire l'éloge, d'autant qu'elle ne fonctionne pas toujours de manière aussi profitable pour le groupe, mais simplement de la comprendre et de le faire dans ce qu'il appelle le grand parlement des instincts. Car il existe d'autres instincts, bien sûr, également nommés pulsions, à savoir l'alimentation, la reproduction, la fuite, qui participent à maintenir l'existence de l'espèce dans le long terme et souvent de l'individu dans le court terme. Mais à plusieurs reprises, l'éthologue s'autorise une digression parfois basé sur une anecdote personnelle, en passant un peu vite des animaux aux êtres humains. Mais c'est dans le chapitre final, explicitement titré « Ecce Homo », qu'il rassemble ses réflexions sur l'humanité. Imaginant, je le cite, un observateur impartial sur une autre planète qui regarde les conflits sur la Terre, il déclare que jamais cet observateur n'aurait l'idée que le comportement humain pourrait être dirigé par la raison et encore moins par une morale responsable, tant il est, dit-il, stupide, répugnant et indésirable. C'est là un évident changement de registre analytique. De la rigueur scientifique, l'auteur est passé au jugement de valeur. Mais il n'oublie pas les animaux pour autant, sans relever toutefois la contradiction de son propos avec son idée de l'agressivité naturelle au sein de son propre groupe, puisqu'il écrit, je le cite encore, « Si notre observateur extraterrestre était un éthologue bien informé, il conclurait inévitablement que l'organisation sociale des hommes ressemble beaucoup à celle des rats, qui eux aussi sont à l'intérieur de la tribu des êtres sociables et paisibles, mais se comportent en véritables démons envers des congénères n'appartenant pas à leur propre communauté. » En fait, pour lui, le comportement humain est encore soumis, je le cite, « à toutes les lois prédominantes de le comportement instinctif adapté par la phylogénèse, c'est-à-dire la genèse de l'espèce. » Mais à la différence de l'homme primitif, comme il l'appelle, qui pouvait sans frein décharger son agressivité, l'homme contemporain se trouve inhibé par une responsabilité morale qui lui impose, vainement le plus souvent, de ne pas être violent. Et vous voyez le rapprochement avec la théorie freudienne. La théorie psychanalytique et la théorie éthologique se font donc étonnamment écho, bien que l'une porte sur le psychisme et l'autre sur la biologie. Toutes deux voient la violence comme l'expression d'instinct et de pulsion. Toutes deux identifient chez l'être humain des comportements similaires à ceux des animaux. Toutes deux établissent un parallèle plus imaginaire que scientifique entre l'homme primitif et l'homme contemporain. Et toutes deux, enfin, considèrent que la morale ne parvient guère à contrôler l'agressivité. On a donc affaire à deux théories naturalistes, le psychanalyste évoquant la nature humaine, l'éthologue, les lois de la nature. La comparaison n'est pas artificielle et elle a été très tôt discutée, entre autres par le sociologue italien Umberto Melotti de l'université romaine La Sapienza. Et du reste, Lorenz lui-même se réfère plusieurs fois à Freud, auquel il reconnaît un rôle pionnier dans la compréhension des instincts, tout en considérant que plutôt qu'une pulsion de mort inscrite dans le psychisme est donc forcément destructrice, on a en réalité affaire à une pulsion plus générale inscrite dans la biologie et nécessaire à la régulation de la pression interne à l'espèce. En somme, l'instinct est délétère pour Freud et il est productif pour Lorenz. Malgré cette différence majeure, les convergences entre les deux théories sont remarquables. En inscrivant la violence dans un ordre naturel, elles affirment une universalité des comportements agressifs. Tous les êtres humains y sont soumis, car les instincts et les pulsions ne connaissent pas de frontières. Ce sont donc des théories sans histoire et sans politique. Sans histoire, car même à l'échelle des aires géologiques, des animaux aux hominidés et des hominidés aux êtres humains, ce sont toujours les mêmes mécanismes qui sont à l'œuvre. Et sans politique non plus, car nulle part n'apparaissent des rapports de pouvoir, des enjeux de droit et des structures institutionnelles. Ces deux théories classiques, aussi innovantes qu'elles aient été en leur temps, ont cependant mal vieilli, même si l'on peut encore en percevoir les traces dans certains travaux contemporains. D'une part, la psychanalyse, si elle conserve une place notable dans la clinique, a une présence assez limitée dans le débat intellectuel et dans les sciences sociales, encore que des différences existent selon les pays. La pensée critique y étant plus réceptive aux États-Unis qu'elle ne l'est en France. Et d'autre part, l'éthologie, étant une discipline scientifique, elle a logiquement bénéficié des avancées, des méthodes, des technologies, des expériences, tout en restant cependant fidèle à la théorie darwinienne de la sélection naturelle. Ce qui réunissait ces deux théories, à savoir les concepts d'instinct et de pulsion, qui rendaient les animaux et les humains naturellement enclins à l'agressivité, du fait soit de leur économie psychique, soit de la conservation de leur espèce, est aujourd'hui fortement critiqué. Les comportements agressifs sont généralement vus comme des réponses à des situations ou à des stimuli, réponses qui s'appuient sur des apprentissages, des imitations ou des analyses d'informations, plutôt que comme des phénomènes spontanés, tels que les voyaient Freud et Lorenz, produits par des instincts et des pulsions. Désormais, la psychologie sociale enrichie par les sciences cognitives, a remplacé la psychanalyse et la psychologie évolutionniste, alimentée par les travaux de psychobiologie, a renouvelé l'éthologie. La frontière entre les deux n'est d'ailleurs pas complètement imperméable. Du côté de la psychologie sociale et des sciences cognitives, si on suit les psychologues Wayne Warburton et Craig Henderson des universités de Macquarie en Australie et de l'Iowa aux États-Unis respectivement, l'agressivité peut être définie comme le comportement intentionnel visant à nuire à une personne, que ce soit physiquement, par des coups, verbalement, par des insultes, ou relationnellement, par des rumeurs, par exemple. Les théories cognitives, cherchant à en rendre compte, se sont inspirées du modèle informatique, c'est-à-dire du triptyque input, processing, output. Pour les uns, le traitement d'informations dans une interaction potentiellement agressive consiste à essayer de percevoir le comportement des protagonistes auxquels on fait face, d'en analyser les motivations, afin de savoir s'il y a chez eux une intention hostile. Et pour les autres, le traitement de l'information implique l'acquisition de scripts, soit par l'expérience personnelle, soit par l'observation des protagonistes, qui permettent de réagir face à une situation donnée, le script le mieux mémorisé conduisant à une réponse qui peut être agressive ou non. Mais le modèle explicatif le plus récent et peut-être le plus complet, connu sous le nom de General Aggression Model, se présente de la manière suivante. Si une personne est confrontée à un facteur déclenchant dans son environnement, son état interne se modifie sur les plans cognitifs, affectifs et physiologiques, donnant lieu à une évaluation de la situation et une décision pouvant être impulsive ou réfléchie et agressive ou pacifique. Le comportement choisi et l'expérience en résultant influent en retour sur la personnalité et sur de futures réactions. Ces différentes théories peuvent donner lieu à des expérimentations, d'ailleurs, utilisant l'imagerie cérébrale, afin notamment d'observer l'activation de régions du cerveau en réponse à des stimuli violents divers tels que des jeux, des films, des images, et à l'inverse, la désensibilisation par l'habituation à la violence. Ces approches de psychologie sociale ont en commun non seulement de penser l'agression au seul niveau de l'individu, mais d'essayer de saisir les mécanismes immédiats de l'agressivité plutôt que leur logique profonde. Il n'est donc plus guère question, cette fois, des origines de la violence. Et du côté de la psychologie évolutionniste et de la psychobiologie, laquelle intègre souvent les acquis de l'éthologie, en revanche, ce thème demeure présent. Le thème des origines. Les travaux les plus intéressants à cet égard concernent la violence collective. Selon le criminologue néo-zélandais de l'Université de Wellington, Russell Durant, la violence collective correspond à l'usage instrumental de la violence par des individus qui s'identifient comme membres d'un groupe et s'en prennent à un autre groupe d'individus. Cette définition large inclut donc la guerre, le terrorisme, les massacres, les génocides et la répression de minorités par l'État, entre autres, chacun de ces cas nécessitant bien sûr un examen spécifique, mais tous relevant, selon lui, de certaines logiques communes à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Le paradigme darwinien implique en effet que la violence collective obéisse à une adaptation évolutive, dont les études sur les animaux, notamment sur les grands singes, apportent des preuves empiriques. Diverses théories en dérivent, visant à rendre compte de la survenue de ces conflits. Il peut s'agir de l'hostilité entre deux groupes, pour lesquels une asymétrie des forces promet la victoire à l'un d'eux, de stratégies de coalition entre mâles pour vaincre des rivaux, ou encore de ce que l'on qualifie de parochial altruism, altruisme parochial, paroissial, c'est-à-dire de comportements cherchant à favoriser les membres de son propre groupe contre les autres. Bien que ces logiques présentent des différences, toutes ont en commun d'apporter aux vainqueurs des bénéfices en termes de meilleur accès au territoire, à la nourriture et à la reproduction, tous éléments qui participent d'une sélection des plus forts, telle que le prévoit la thèse darwinienne. Mais ce modèle évolutionniste, au cœur de laquelle on trouve l'idée d'adaptation, est-il universel véritablement ? Certains auteurs ont avancé deux arguments pour le contester, en tout cas pour ce qui est des êtres humains. D'une part, il semble que la violence collective ne soit devenue un phénomène fréquent qu'au cours, si l'on ose dire, des 12 000 dernières années. D'autre part, il apparaît que la violence collective n'est pas retrouvée dans toutes les sociétés. Ces deux éléments, donc l'un qui est historique, l'autre qui est ethnologique, laissent supposer que certaines caractéristiques structurelles des sociétés segmentées et hiérarchiques et certains éléments conjoncturels, par exemple la pression démographique, les perturbations climatiques, puissent être favorables à des comportements agressifs. Dans l'état actuel des connaissances, il n'est toutefois pas possible de trancher entre le modèle strictement darwinien, selon lequel la violence collective s'inscrit dans une logique de sélection permettant la conservation de l'espèce, et l'approche plus spécifique que je viens d'évoquer, ne renonçant pas à prendre en compte des phénomènes d'adaptation, mais les répandant, les considérant comme répondant à l'organisation sociale du groupe concerné et des facteurs environnementaux. Quoi qu'il en soit, du poids relatif devant être accordé à ces deux théories, l'une plus universelle, l'autre plus circonstancielle, il faut s'interroger sur leur pertinence pour tracer une généalogie de la violence dans les sociétés modernes. Lorsqu'est formulée cette question, on en vient à l'une des discussions les plus vives dans les sciences historiques au sens large, qui inclut l'archéologie. Les sociétés sont-elles de moins en moins violentes ? Ce qui revient à se demander si nous sommes plus moraux que nos ancêtres, plus respectueux des autres, en somme, meilleurs. Le XXe siècle, avec ses deux guerres mondiales, ses totalitarismes meurtriers, ses crimes coloniaux et ses génocides, a longtemps conduit à penser le monde, et notamment le monde occidental qui avait causé et nourri la plupart de ces tragédies humaines d'ampleur considérable, glissait sur une pente toujours plus mortifère. Après l'Holodomor ukrainien et le viol de Nankin, après le génocide des Arméniens et les crimes de masse des Khmers rouges, après Auschwitz et Hiroshima, après Srebrenica et le Rwanda, il semblait impossible de porter un regard optimiste sur l'humanité contemporaine. Pour le fondateur allemand de l'école de Francfort, Théodore Adorno, le sociologue d'origine polonaise de l'université de Leeds, Zygmunt Bauman, et le philosophe italien de l'université de Venise, Giorgio Agamben, entre autres, l'évolution qu'a connue le monde moderne n'était pas un accident de l'histoire, la brutalisation extrême pouvant aller jusqu'à l'anéantissement d'un peuple était partie intégrante de la modernité. L'idée de société contemporaine moins violente était difficile à défendre au regard de la mémoire des dizaines de millions d'hommes, de femmes et d'enfants tués pour ce qu'ils représentaient. Mais soudain, il y a eu, en 1989, la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire l'effondrement des régimes communistes en Europe de l'Est, décrite par Francis Fukuyama comme la fin de l'histoire, puisque la démocratie libérale semblait s'être définitivement imposée. Et puis en 2001, l'attentat contre le World Trade Center, autrement dit la spectaculaire révélation du terrorisme islamiste aux États-Unis, s'intégrant alors dans la thèse de Samuel Huntington sur le choc des civilisations, dont la plus menaçante était évidemment musulmane. Ces deux événements ou séries d'événements ont eu deux conséquences dans la représentation du monde de certains intellectuels et chercheurs, mais également de journalistes et de responsables. Premièrement, le retour en grâce du monde occidental, dont l'image avait été singulièrement abîmée par les tragédies du siècle écoulé. Et corrélativement, la production d'une altérité radicale qui pouvait servir d'antithèse aux valeurs occidentales retrouvées. Dans ce nouveau contexte international, à la fois optimiste et polarisé, la question de savoir comment la violence évoluait a été posée à nouveau frais, et notamment par le livre au succès considérable du linguiste professeur de psychologie de l'Université de Harvard, Steven Pinker, The Better Angels of Our Nature, sous-titré plus explicitement How Violence Has Declined, paru en 2011, donc Les meilleurs anges de notre nature, comment la violence a reculé. La formule du titre, The Better Angels of Our Nature, provient de la conclusion du discours inaugural prononcé en 1861 par Abraham Lincoln alors qu'il venait d'être élu à la présidence des États-Unis. Il y affirmait que même dans les moments d'extrême tension, et à ce moment-là, sept États du Sud venaient d'annoncer leur sécession, la nation devait être, dit-il, touchée par les anges meilleurs de notre nature. Expression qui est devenue célèbre, bien qu'elle fût immédiatement démentie par les faits, puisqu'on était à l'aube d'une guerre civile au cours de laquelle près d'un million de soldats et de civils perdirent la vie. Nouveau Pangloss, ce philosophe dont Voltaire a fait dans Candide une caricature de l'optimisme leibnizien, puisque pour lui les êtres humains de son temps vivraient dans le meilleur des mondes possibles, Steven Pinker décrit dans son livre le recul depuis la préhistoire de la violence sous toutes ses formes, des guerres aux crimes, des pogroms au lynchage, de la maltraitance infantile aux agressions sexuelles. Il insiste sur le double processus de pacification et de civilisation qui est à l'œuvre, mobilisant dans le premier cas, pacification, la théorie de Thomas Hobbes et les études sur les chimpanzés, et dans le second, c'est-à-dire la civilisation, eh bien la thèse bien sûr de Norbert Elias, ainsi que les statistiques sur les homicides. Contre toute attente, il voit même le XXe siècle marqué par cet adoucissement des mœurs, car, explique-t-il, en ajustant la mortalité en fonction des populations mondiales dans les époques correspondantes, les deux guerres mondiales, avec leurs près de 20 millions et plus de 50 millions de morts respectivement, n'arrivent finalement qu'en 9e et 16e position des tragédies les plus meurtrières de l'histoire, loin derrière une révolte chinoise du 8e siècle, les conquêtes mongoles de Gengis Khan au 13e siècle et la traite des esclaves au Moyen-Orient entre les 7e et 19e siècles, compte tenu, là encore, de la démographie beaucoup plus faible à ces différentes époques. L'auteur célèbre ainsi la longue paix, comme il l'appelle, que traverse la planète, apparemment oublieux qu'au moment où il écrit, son pays a été en guerre pendant 216 des 233 années de son existence comme nation indépendante. De même, il se réjouit que dans la nouvelle paix, comme il l'appelle, les génocides et les massacres soient de moins en moins mortifères, 17 ans après les 700 000 Tutsis tués au Rwanda et 6 ans après les 300 000 décès au Darfour, tandis qu'au cours de la décennie précédant la parution de son livre, on évaluait déjà à plusieurs millions le nombre de morts en République démocratique du Congo. Il reconnaît cependant que cette évolution heureuse concerne essentiellement les pays occidentaux. Et de même que pendant la guerre froide, elle n'avait pas bénéficié aux pays communistes, dit-il, en est aujourd'hui exclu le monde musulman, où, affirme-t-il, les anges, reprenant la même métaphore, les anges ont peur de mettre les pieds. Et de citer la fatwa contre Salman Rushdie, la lapidation d'une femme au Nigeria, l'assassinat de Théo Van Gogh et les émeutes après les publications au Danemark des caricatures du prophète ainsi que les attentats du 11 septembre aux États-Unis. L'ouvrage de 800 pages fut critiqué du point de vue de sa validité scientifique par des archéologues, des historiens, des anthropologues, des sociologues. Le psychologue et linguiste ne s'était-il pas aventuré loin de son domaine de compétences et surtout ne s'était-il pas affranchi des règles de la méthode des sciences sociales comme l'établissent, entre autres, Pasquale Cirillo et Nassim Nicola Taleb en dévoilant la manière dont les statistiques sont manipulées dans le but d'asseoir sa thèse. On pourrait de plus rappeler que selon le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, en 15 ans, le nombre de personnes déplacées chaque année a été multiplié par 5, alors que le nombre de personnes victimes des conflits sur la planète était lui aussi quintuplé. Malgré ces graves défaillances et manquements, la réception du livre dans les grands médias fut enthousiaste, du New York Times au Wall Street Journal, du Financial Times au Huffington Post. Le milliardaire et philanthrope Bill Gates lui-même affirmait que s'il n'avait qu'un livre à recommander, c'était celui-ci, ne changeant d'avis qu'avec la parution d'un autre du même auteur, Enlightenment Now, The Case for Reason, Science, Humanism and Progress, Les Lumières maintenant, le cas pour en faveur de la raison, de la science, de l'humanisme et du progrès, qui est une sorte, comme vous le devinez, d'un hymne au progrès et au bonheur dans lequel il est montré, notamment, je cite l'auteur, que le monde devient meilleur comme le prouve le fait que la guerre est devenue illégale. Intéressante convergence entre les univers académiques, des médias, des affaires, autour d'une célébration de la supériorité occidentale, réduisant la violence à une forme d'arriération culturelle dont les sociétés musulmanes seraient le parangon. Dans un article présentant l'état des connaissances sur l'histoire de la guerre et de la violence dans la longue durée, l'anthropologue de l'université de Brown, Andrew Scherer, montre pourtant que l'ensemble des travaux disponibles ne permettent pas de valider un quelconque grand récit sur l'évolution de ces phénomènes. Bien au contraire, comme c'est presque toujours le cas dans les études portant sur des sociétés, il y a d'importantes variations d'une culture à l'autre, d'une époque à l'autre. À propos du livre de Steven Pinker, il souligne que nombre des statistiques qu'il produit visent fallacieusement à surinterpréter les violences dans les sociétés anciennes et au contraire à les minimiser dans les sociétés modernes pour établir sa thèse. Il ajoute « La plupart des données utilisées pour montrer le recul de la violence proviennent d'Europe de l'Ouest et des États-Unis. On pourrait donc dire qu'il a montré pourquoi le colonialisme et l'État-nation moderne s'étaient révélés finalement bénéfiques pour les citoyens de ces régions. » La question des origines et l'évolution de la violence n'échappe pas, on le voit, à la tension entre science et idéologie. Mais c'est une toute autre approche que développent les philosophes. Loin des théories universalistes, recourant à la psychologie et à la biologie, au freudisme et au darwinisme, visant à établir des fondements de la violence communs à tous les êtres humains, ils cherchent au contraire à établir une logique politique, puisant non plus dans l'individu, mais dans la société, ou plus précisément dans les rapports de pouvoir dans la société. À cet égard, si, comme on l'a vu, les sciences sociales ont découvert la question de la violence très tardivement, la philosophie politique, elle, s'y est intéressée depuis très longtemps. L'ouvrage sans doute le plus influent sur cette question est Le Léviathan, publié en 1651 par Thomas Hobbes, dont le titre se réfère paradoxalement au monstre, au redoutable monstre marin de la Bible, notamment dans le livre de Job, alors qu'il représente ici, au contraire, l'État supposé protéger le peuple de la guerre. Le sous-titre en est « Traité de la matière, de la forme, du pouvoir, de la république ecclésiastique et civile », le terme utilisé en anglais étant « Commonwealth ». Après avoir longuement discuté de la sensation et de l'imagination, de la raison et de la science, des passions et des vertus, des mœurs et de la religion, c'est dans le 13e chapitre, intitulé « De la condition naturelle des hommes en ce qui concerne leur félicité et leur misère », que l'auteur commence à élaborer sa théorie politique. Selon lui, au-delà des évidentes différences qui existent entre les êtres humains, la nature les a faits égaux du point de vue des facultés du corps aussi bien que des facultés de l'esprit. Et c'est là l'origine de la violence. Je le cite, de cette égalité de capacité résulte une égalité d'espoir d'atteindre nos fins. Et par conséquent, si deux hommes désirent la même chose, dont ils ne peuvent néanmoins pas jouir tous les deux, ils deviennent ennemis. Et pour atteindre leur but, qui est principalement leur propre conservation et parfois leur seul plaisir, ils s'efforcent de se détruire ou de se subjuguer l'un à l'autre. Face à cette redoutable perspective, la défiance s'installe alors entre les êtres humains et la seule façon pour eux de se mettre en sécurité consiste à agir par anticipation en se rendant maître du plus grand nombre possible d'autres individus jusqu'à ne plus être menacés par aucun. En conséquence, poursuit-il, il est manifeste que pendant le temps où les hommes vivent sans un pouvoir commun qui les maintienne tous dans la peur, ils sont dans cette condition qu'on appelle guerre, une guerre dans laquelle chaque homme est contre chaque homme. Dans ce contexte donc d'hostilité de tous contre tous, comme le précise encore le philosophe, rien ne peut être injuste, car les notions de bien et de mal, de justice et d'injustice, n'y ont aucune place, puisque là où il n'y a pas de pouvoir commun, il n'y a pas de loi, et là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas d'injustice. Notons ici un certain glissement conceptuel entre le droit, la loi, et la morale, la justice, car on peut ressentir une injustice quand bien même la loi n'existe pas ou même existe, mais ne la reconnaît pas. Donc en résumé, pour Hobbes, du fait de la rivalité et de la défiance existant entre les êtres humains, les seules relations possibles relèvent de la guerre de tous contre tous. Et il en tire un précepte en deux temps. Je le cite, « Tout homme doit œuvrer à la paix aussi longtemps qu'il a l'espoir de l'obtenir. Et quand il n'y parvient pas, il peut rechercher et utiliser tous les secours et avantages de la guerre. » Donc la première partie, rechercher la paix, est la loi fondamentale de nature. Et la seconde, se défendre par tout moyen, est un droit de nature. De la loi de nature découle une autre qui concerne le consentement des êtres humains à se démettre de leur droit de nature pour le transmettre à une autorité, à condition, cependant, que tous acceptent simultanément le même renoncement et qu'en retour, l'autorité les dote d'un autre droit qui leur sera bénéfique, en l'occurrence, la sécurité. Donc abandonner son droit pour obtenir la sécurité. Il conclut, la transmission mutuelle du droit est ce que les hommes appellent contrat, et la multitude ainsi unie en une seule personne est appelée commonwealth. Alors il y a trois formes de gouvernement qui résultent de ce contrat, à savoir gouvernement d'un seul, la monarchie, d'une assemblée de citoyens, la démocratie, et d'une partie de la société, l'aristocratie. Et le philosophe, lui, accorde sa préférence à la première, il est un partisan de la monarchie absolue. Il a cependant introduit un changement majeur dans la manière de la concevoir, puisqu'elle n'a plus une origine divine, comme on le pensait à l'époque, mais une origine contractuelle. Parmi les raisons qu'il donne pour justifier sa préférence, la première est remarquable d'ailleurs, car elle se présente comme une sorte de théorie du ruissellement à l'envers, la prospérité du peuple garantissant la prospérité du souverain. La monarchie est le meilleur des régimes, explique-t-il, car l'intérêt privé du souverain est le même que l'intérêt public. Je le cite, « Les richesses, le pouvoir, l'honneur d'un monarque ne proviennent au fond que des richesses de la force et de la réputation de ses sujets. Car aucun roi ne peut être riche ni glorieux ni en sécurité si ses sujets sont pauvres, soit méprisables, soit trop faibles. » Donc, étonnamment, c'est en confondant intérêt public et intérêt privé que le souverain sert le mieux le peuple. Il me semble que nombre de chefs d'État contemporains paraissent s'être laissés convaincre par cet argument. Mais revenons à l'état de nature, avec son conflit généralisé, avec cette guerre de tous contre tous, dans laquelle se défendre justifie d'agresser par anticipation. Contrairement à ce qu'on suppose souvent, l'auteur n'affirme pas que cet état de nature ait réellement existé, et il écrit « On peut d'aventure penser qu'il n'y a jamais eu une telle situation de guerre. Et je crois que de manière générale, cela n'a jamais été le cas dans le monde entier. » Il ajoute cependant, « Mais il y a beaucoup d'endroits où l'on vit comme cela aujourd'hui. » Et surtout, il évoque l'expérience de ceux qui, ayant vécu auparavant sous un gouvernement pacifique, se trouvent transportés dans une guerre civile. Autrement dit, il n'est pas en train d'imaginer un temps de l'humanité avant le contrat politique, celui de l'homme primitif dans l'état de nature, celui de la guerre, de tous contre tous. Mais il se réfère à des peuples concrets du continent américain, au sujet desquels des récits commencent à circuler, et plus encore, à une société qu'il connaît bien pour y vivre, l'Angleterre. Car au milieu du XVIIe siècle, le pays connaît une longue période de guerre civile de 1642 à 1651, opposant royalistes et parlementaristes, impliquant l'Écosse, l'Irlande, le Pays de Galles, causant probablement de l'ordre de 200 000 victimes et se terminant par l'exécution de Charles Ier et l'arrivée au pouvoir d'Olivier Cromwell. Comme le rappelle le philosophe pragmatiste John Dewey de l'Université de Chicago, le Léviathan a été écrit pour expliquer et dénoncer ce qui avait conduit aux guerres civiles anglaises. Pour Hobbes, la violence des hommes entre eux était ainsi moins l'évocation d'un imaginaire état de nature que la référence à une guerre bien réelle dévoilant les errements de la nature humaine. Mais bien qu'elle soit liée à des circonstances historiques, comme je viens de le rappeler, l'œuvre de Hobbes, qui a été controversée en son temps, a exercé une influence considérable sur la philosophie politique jusqu'à aujourd'hui. L'auteur classique qui a eu avec cette œuvre la discussion la plus contrastée est Jean-Jacques Rousseau, dans le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes en 1755 et du contrat social en 1762, soit environ un siècle après la publication du Léviathan. Alors j'ai dit discussion contrastée car d'un côté tout semble opposer les deux théories, mais de l'autre des éléments importants les rapprochent. Les divergences entre Rousseau et Hobbes sont manifestes et du reste revendiquées-elles pour le philosophe genevois. En effet, l'homme sauvage, comme il l'appelle, vit de manière solitaire et d'ailleurs n'a pas de désir de sociabilité. Il est robuste, mais n'a pas d'inclination à se battre contre les autres. Il use de ses facultés pour se défendre contre les animaux et pour se procurer de la nourriture. N'ayant pas de relation morale avec ses congénères, il n'est ni bon ni méchant, il n'a ni vice ni vertu. Cependant, il éprouve une répugnance innée à voir la souffrance, cette pitié relevant d'un sentiment naturel partagé même avec les animaux. En réalité, pour Rousseau, c'est la société civile qui corrompt l'être humain, lui fait perdre sa force et son courage, le soumet à l'oppression des plus forts. Si les uns dominent avec violence, tandis que les autres se trouvent asservis, de telles relations n'existent pas selon lui dans l'état de nature, dont il faut rappeler qu'il ne considère pas lui non plus comme ayant réellement existé. Il parle de supposition de cette condition primitive. On associe souvent Rousseau au mythe du bon sauvage. Mais cette assimilation n'a pas de sens. Il n'y a pas de morale chez l'être humain dans l'état de nature pour lui. Il ne peut donc pas être bon. S'il n'est pas violent, c'est qu'il, tout simplement, il n'a pas besoin de l'être. Les différences avec Hobbes sont donc évidentes. Et pour autant, les convergences entre les deux théories ont été soulignées par nombre d'auteurs qui insistent sur le fait que l'un comme l'autre établissent la naissance du politique dans le passage de l'état de nature à la société civile, que dès lors l'état de nature tel qu'il le voit n'est pas pré-social mais pré-politique, et qu'ils développent donc tous deux des théories contractualistes de l'état par lesquelles ce sont les êtres humains qui s'accordent pour reconnaître un souverain. Et une distinction cruciale existe ici dans les termes du contrat. Pour Hobbes, ils cèdent leur liberté en l'échange de sécurité. Pour Rousseau, ils conservent leur liberté. Autrement dit, pour Hobbes, la multitude se subsume en un, le souverain qui jouit d'un pouvoir absolu, alors que pour Rousseau, la multitude se donne un gouvernement qui résulte, comme on le sait, de la volonté générale. On comprend que bien plus que le Léviathan, ce soit l'ouvrage du contrat social qui ait pu être une source d'inspiration pour les révolutionnaires de 1789. Alors il est un auteur contemporain qui a repris à son compte la théorie de Hobbes pour la prolonger et même la détourner. C'est le sociologue allemand de l'université de Munich, Wolfgang Sowski, dans son « Traité de la violence » de 1996. Le livre s'ouvre par un récit mythique à la manière du philosophe anglais. Je le cite « Quand les hommes étaient libres et égaux, chacun avait tout à craindre d'autrui. La vie était brève, la peur était immense, aucune loi ne mettait à l'abri des agressions, tout le monde se méfiait de tout le monde. » On trouve la lecture hobbesienne. Pour tenter de remédier à cette situation, une décision fut prise. Les hommes conclurent une alliance pour assurer leur commune sécurité. Au terme de longues concertations, ils signèrent un contrat prescrivant ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc on retrouve là les idées d'État pré-politique, de société civile et de contrat, comme chez Hobbes. Mais les choses ne se passèrent pas ainsi que le prévoyait la théorie hobbesienne. L'ordre prévalut sur la sécurité, la prohibition sur la liberté, la répression des dissidences fut impitoyable, la fermeture des frontières fut décidée. Au bout d'un certain temps de ce régime autoritaire et brutal, une révolte se produisit, les armes cédées au pouvoir furent reprises, la charte du contrat fut brûlée, il y eut des destructions et des massacres. Après la ville, la campagne fut elle aussi dévastée, ainsi que ses habitants. Soudain, les hommes pouvaient faire tout ce qui leur avait été jusque-là interdit, ils revenaient ainsi à leur origine, ils redevenaient ce qu'ils avaient été. La fable de Sofsky dévie ainsi de la thèse initiale de Hobbes. Elle ne voit pas dans le contrat la solution au problème des hommes dans l'état de nature, mais la cause d'autres problèmes dont la seule solution consiste à recommencer au point de départ. Selon Sofsky, je le cite, elle ne raconte pas seulement l'origine de la société et le fondement originaire de l'État, elle raconte le cycle de la civilisation, le retour au commencement. Elle ne dépeint pas la fin de la violence, mais l'alternance de ses formes. Donc les hommes, sans la loi, sont violents entre eux, mais s'ils se donnent une loi, elle devient source de nouvelles violences. On pourrait certes objecter que les formes de gouvernement diffèrent à cet égard, que la démocratie n'est pas le totalitarisme et que par conséquent le maintien de l'ordre, le respect des libertés, le règlement des désaccords, la protection des frontières n'appellent pas nécessairement de répression féroce et de rébellion en réaction. Pourtant, la fable, dans son refus de tenir compte de ces différences, contient pour Thomas Sofsky une double vérité. Je le cite. Premièrement, tout pouvoir est fondé en dernier ressort sur l'arbitraire et la peur de la mort. Et deuxième principe, aucun langage n'est plus convaincant que le langage de la violence. Pour comprendre cette vision sombre, peut-être faut-il se souvenir que son ouvrage précédent portait sur l'organisation de la terreur dans les camps de concentration nazis. Pour autant, il serait trompeur de réduire sa théorie de la violence à cette seule composante, d'autant que son projet est de décrire des formes de violence dans leurs modalités concrètes, la torture, l'exécution, le combat, la chasse, le massacre, plutôt que dans leurs causes hypothétiques. Et dans le dernier chapitre du livre, l'auteur ajoute une sorte de conclusion à la fable. Après la chute du pouvoir, les chefs rebelles reconduisent en ville les dignitaires qu'ils ont renversés. Sur le chemin du retour, le cortège est attaqué par une foule en colère qui massacre à l'arme blanche les gouvernants destitués et en dévore des lambeaux de chair pour, dit le texte, incorporer le pouvoir ancien. Mais dans les temps qui suivent, les morts reviennent hanter les meurtriers, insinuer en eux la honte et la culpabilité, punir toute velléité d'imagination, de désir et de liberté. Étrange épilogue macabre dont l'auteur tire une conclusion d'inspiration freudienne, mais également biblique, sur, je le cite, « la faute indélébile qui pèserait sur les pulsions violentes des êtres humains ». Il écrit « ce ne sont pas les contrats qui interdisent la violence, c'est la tyrannie de la conscience morale ». Et de citer cet aphorisme de l'écrivain roumain Cioran, « la nostalgie de la barbarie est le dernier mot d'une civilisation ». Citation qui résume la thèse de Sofsky sur la généalogie de la violence, une loi de l'éternel retour, ou plutôt un cycle maléfique dans lequel, loin d'être apaisé par le contrat politique, la violence se reproduit dans le pouvoir mis en place. Ce sont donc deux grands ensembles théoriques qui se sont efforcés de répondre à la question d'où vient la violence ? Peut-on en faire la généalogie ? Le premier ensemble, psychanalytique et éthologique, propose une interprétation universaliste, basée sur les instincts, les pulsions, établissant des parallèles plus ou moins affirmés avec le monde animal. Tous les êtres humains sont mus par des forces internes qui les conduisent à être violents, soit de manière spontanée, soit en réaction à des circonstances. Le paradigme darwinien et ses développements ultérieurs sont à la fois les plus puissants du point de vue explicatif et les plus positifs, puisqu'ils considèrent que la violence participe de la sélection naturelle. Ni l'histoire, ni le politique n'a de place dans ces approches. Le second ensemble, essentiellement philosophique, propose une interprétation sociale, politique et morale. Ces trois composantes étant ainsi présentes à des degrés variables selon les théories et construisent un modèle qui repose sur le passage d'un état de nature imaginaire à une société civile plus ou moins réelle grâce à un contrat par lequel le pouvoir est transféré à un souverain ou un gouvernement. La tâche principale de ce dernier, souverain ou gouvernement, est d'assurer la sécurité dont ne jouissaient pas jusqu'alors les êtres humains. Le paradigme hobbesien en fournit une trame inquiétante, fondée sur la guerre de tous contre tous, comme généalogie de l'État. Mais l'histoire en tant que telle est là encore absente, et quant au politique, il est évidemment présent, mais sous une forme totalement abstraite, renvoyant à des types formels de souveraineté et de gouvernement. Il y a un élément commun à l'une et l'autre de ces approches qu'on met rarement en évidence, c'est que la violence semble toujours venir des êtres humains, qu'il s'agisse de leurs pulsions et de leurs instincts chez Freud et Lorenz, de leurs désirs et de leurs peurs chez Hobbes et Sofsky. Autrement dit, la violence est en l'homme, pour utiliser la formule genrée pour une fois justifiée, car il s'agit plus souvent d'une question masculine. Et si elle est en l'homme, elle n'est donc pas dans les structures et les institutions sociales. Plus même, dans la théorie politique classique prolongée par la sociologie de Max Weber, l'État assure la sécurité du fait de détenir le monopole de l'usage légitime de la violence, ainsi qu'on l'a déjà vu. C'est contre cette lecture que le philosophe allemand de l'école de Francfort, Walter Benjamin, publie en 1921 sa célèbre « Critique de la violence ». Texte difficile, parfois obscur, mais qui a laissé une marque importante dans la théorie politique et même au-delà. La question de la violence, dit l'auteur, renvoie à la question des moyens et des fins. Dans le droit naturel, selon lequel il existe des droits inaliénables que tout individu possède en tant qu'il appartient à l'humanité, comme le droit à la vie par exemple, si les fins sont justes, des moyens violents peuvent être légitimes. Mais dans le droit positif, selon lequel les droits des personnes découlent des lois et des règlements décidés par la société dans des conditions historiques données, même si les fins sont considérées justes, le recours à la violence comme moyen fait problème. Laissant de côté le droit naturel, qu'il soit inspiré de Hobbes ou de Darwin, car tous deux se situent en dehors de tout espace social concret, Walter Benjamin se tourne vers le droit positif, qui est celui qui est mis en œuvre donc par les êtres humains en société. Dans ce cadre, les individus n'ont pas le droit d'exercer une violence, fût-elle motivée par la poursuite de fins justes. Pour l'exprimer simplement, il est interdit de se faire justice soi-même. La seule violence autorisée est la violence du droit lui-même, celle que le droit monopolise à travers l'État. Elle est de deux natures, cette violence du droit, de deux natures différentes. D'un côté, il y a la violence fondatrice du droit, explique Benjamin. Ainsi, au terme d'une guerre, le vainqueur définit de nouvelles frontières, établit de nouvelles lois, un nouveau droit est né de l'usage de la violence. Mais d'un autre côté, il y a la violence conservatrice de droit. Ainsi, en temps de paix, le service militaire vise à apprendre aux citoyens à se servir d'armes et à savoir les conditions dans lesquelles ils sont légalement tenus de le faire. La préservation du droit se fait par la menace du recours à la violence. L'État dispose ainsi d'un double monopole au regard de la violence, celle qui fonde le droit et celle qui le conserve. Ces deux formes de violence se retrouvent, continue l'auteur, au cœur d'une institution de l'État moderne, la police. Elle est une violence employée à des fins légales, puisqu'elle est censée faire appliquer la loi, y compris en usant de la violence, et elle est aussi en mesure d'étendre elle-même très largement le domaine de ses fins, puisqu'elle peut faire réviser la loi pour élargir ses prérogatives en matière d'utilisation de la violence. Je cite Walter Benjamin, « L'ignominie de la police tient à l'absence de toute séparation entre la violence qui fonde le droit et celle qui le conserve. S'il est requis de la première, violence qui fonde le droit, qu'elle s'affirme comme telle en triomphant, la limitation qui s'impose à la seconde, celle qu'il conserve, est de ne pas s'assigner de nouvelles fins. La violence policière s'est en fait affranchie de ces deux conditions. Autrement dit, la police obtient de la loi qu'elle se plie à sa volonté et la met ensuite en œuvre à sa main, selon Benjamin. Un an avant la publication de Critique de la violence, les forces de l'ordre avaient ouvert le feu à Berlin contre des manifestants communistes en tuant 42. Il est toujours important de penser le contexte historique dans lequel s'inscrivent les textes. Alors, pour illustrer cette double dimension de la violence conservatrice du droit et de la violence fondatrice du droit, on peut évoquer le cas français sur lequel j'ai conduit des enquêtes d'abord ethnographiques puis documentaires depuis une vingtaine d'années. Que ce soit en matière de sécurité publique, dans le travail quotidien des patrouilles dans les quartiers populaires, ou en matière d'ordre public, dans la gestion des manifestations de rue, Les policiers recourent souvent à la violence, non seulement pour maîtriser des délinquants présumés ou des casseurs supposés, mais également pour s'en prendre indistinctement à des habitants dans les quartiers populaires ou à des passants dans les manifestations de rue, ainsi que l'ont établi des témoignages, des images, des procès. Dans ces situations, on compte de nombreux blessés dont les lésions peuvent nécessiter des amputations ou des énucléations, parfois des morts. Pour autant, les investigations internes donnent rarement lieu à des sanctions et parfois même, au contraire, les auteurs se voient récompensés par des promotions et des décorations, tandis que les instructions judiciaires se concluent généralement par des non-lieux ou exceptionnellement débouchent sur des procès dont les verdicts consistent en des peines symboliques qui écartent la circonstance aggravante de la commission par agent détenteur de l'autorité publique et qui évitent presque toujours aux auteurs d'être incarcérés. La violence policière comme conservatrice de droit appartient donc à l'exercice normal du pouvoir d'État. Du reste, non seulement elle ne fait généralement pas l'objet de condamnations administratives ou judiciaires, comme je viens de dire, mais elle fait même l'objet d'un déni aussi bien des principaux intéressés que des autorités publiques. On se souvient de la phrase du président de la République déclarant, durant la crise des Gilets jaunes en mars 2019, « Ne parlez pas de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un État de droit ». Il y avait à ce moment-là, selon les chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur, 2200 blessés parmi les manifestants, dont plus de 200 à la tête et 22 ayant perdu un œil. Mais comme pour confirmer le propos du chef de l'État, 5 ans plus tard, aucun auteur n'avait été poursuivi par la justice. Il y a l'autre composante, à savoir l'extension des prérogatives policières en matière de recours à la violence. Ainsi, la loi du 28 février 2017 a élargi les conditions d'utilisation des armes à feu par les forces de l'ordre, bien au-delà des critères définissant jusqu'alors la légitime défense, y compris sur des personnes s'enfuyant ou ne s'arrêtant pas lors d'un contrôle. Et cette dernière situation, qui est qualifiée, vous le savez, de refus d'obtempérer, a donné lieu à une multiplication par 5 des tirs mortels entre la période avant l'application de la loi et la période immédiatement suivante, ainsi que des enquêtes statistiques l'ont établi. Une illustration tragique en ayant été le meurtre en juin 2023 d'un adolescent prénommé Naël, abattu à bout portant dans sa voiture, alors qu'étourdi par des coups de crosse de pistolet, il avait relâché la pédale de son véhicule à boîte de vitesse automatique qui s'était mise à avancer lentement. La violence policière fonctionne ici comme fondatrice de droit. C'est en effet pour répondre à la demande de la police à la suite d'un incident sans rapport avec l'usage potentiel des armes à feu que cette législation a été présentée par le gouvernement et votée par le Parlement. Au long de cette exploration généalogique que je viens de vous présenter, et je conclus, on est donc passé d'une approche universaliste, psychologique ou biologique, centrée sur l'individu, Freud, Lorenz et quelques autres, à une lecture philosophique mettant en lumière les rapports sociaux constitutifs du politique, Hobbes, Rousseau, quelques autres, avec dans les deux cas l'État et le droit comme protecteur des sujets. C'est cette évidence qu'est venue ébranler Walter Benjamin en révélant la violence fondatrice et conservatrice du droit que l'État déploie. Non que l'État ne puisse pas protéger les citoyens, non que la loi ne puisse pas leur permettre de défendre leurs droits, mais on ne saurait sous-estimer la violence que produit et entretient la manière dont les législations nationales fonctionnent concrètement et la violence que produisent et qu'entretiennent les États à travers leur législation, leur police et leurs juges. Cette violence d'État n'est pas une aberration de la démocratie, elle en est la source. Je vous remercie. Bien, nous reprenons donc dans une quinzaine de minutes.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.